Un couteau est un objet tranchant qui est fort utile pour d'innombrables tâches comme préparer les repas, couper ses aliments, dépecer un animal, écailler un poisson, tailler une branche. Mais c'est aussi une arme qui peut tuer. Pareillement, la langue est un organe qui peut être utilisé pour faire le bien ou le mal. Je continue à lire dans le chapitre 3 de l'épître de Jacques. Nous nous servons de la langue pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés à l'image de Dieu. Verset 9. Le titre pour Dieu, le Seigneur, notre Père, n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament. Jacques compare la langue de l'homme à la langue fourchue d'un serpent. D'un côté, elle est capable de rendre gloire à Dieu, et de l'autre, elle crache des malédictions à l'encontre des hommes. La langue est naturellement hypocrite, pleine de duplicité, toujours prête à tromper afin de tirer quelque avantage d'une situation. Les Juifs en général, et donc ceux à qui Jacques écrit, étaient habitués à louer l'Éternel, car cela faisait partie de leur culture. Le roi David est célèbre pour les psaumes de louanges qu'il a écrits et mis en musique. À une occasion, après avoir recueilli du peuple les offrandes destinées à la construction du temple, David a commencé une longue action de grâce en disant « Loué sois-tu à tout jamais, ô Éternel Dieu de notre ancêtre Israël !» Puis à la fin de sa prière, il a dit à tout Israël « Louez l'Éternel votre Dieu !» Alors, toute l'assemblée loua l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Au premier siècle, tous les Juifs louaient l'Éternel régulièrement. Chaque jour, ils récitaient 18 louanges et terminaient chacune d'elles par « Sois béni, ô Dieu ». Malheureusement, ces mêmes Juifs utilisaient aussi leur langue pour dire du mal, pour maldire, maudire et blasphémer. Pour cette raison, Jacques dit « De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » Verset 10. L'expression « il ne faut pas » est une forme négative très appuyée qui n'est utilisée qu'ici dans le Nouveau Testament. C'est comme si au lieu de taper du poing sur la table, Jacques prenait une masse. En d'autres mots, il dit qu'en ce qui concerne un croyant, il ne devrait jamais dire de paroles méchantes, ni faire de compromis avec la vérité, car de tels comportements sont incompatibles avec une vie droite. Jacques explique cette vérité en s'appuyant sur plusieurs illustrations tirées de la vie quotidienne, avec lesquelles ses lecteurs étaient familiers. À l'exemple de Jésus qui a dit « Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces ?» Jacques demande « Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. » Versets 11 et 12. Bien sûr que non est la réponse à toutes ces questions qu'on pourrait qualifier de la palissade. Jacques ne se place évidemment pas dans la situation extrême où, suite à un cataclysme quelconque, un cours d'eau serait pollué. Il dit qu'en temps normal, la même source ne peut donner qu'une seule sorte d'eau et aucune personne sensée ne s'aviserait à dire le contraire. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits, a dit Jésus. Je continue le texte. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Verset 13. Les mots traduits par sage et expérimenté ont des sens très proches. Les philosophes de l'Antiquité accordaient beaucoup d'importance à la sagesse et les Grecs utilisaient ce mot pour parler d'une théorie, une façon de considérer les choses. Pour les Juifs, par contre, ce mot signifiait l'application méthodique à la vie de tous les jours de la vérité qu'ils avaient acquise grâce au discernement et à la connaissance. Les mots « sage » et « sagesse » apparaissent environ 300 fois dans l'Ancien Testament, dont une centaine de fois rien que dans le livre des Proverbes, et le plus souvent sous la plume du roi Salomon. Ce roi était connu pour l'exceptionnelle sagesse qu'il avait reçue de l'Éternel, et aussi parce qu'il avait fait de la sagesse la quête de toute sa vie. Je lis de passage. « Dieu donna à Salomon une sagesse exceptionnelle, une très grande intelligence et une large ouverture d'esprit qui le fit s'intéresser à des questions aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. » Fin de citation. Environ 9 siècles après Salomon, Cicéron, philosophe romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, a dit que la sagesse était le meilleur don des dieux. Pour lui, comme pour Salomon, la plus noble et la plus précieuse possession de l'homme sur terre est la sagesse. Si pour les Hébreux, la sagesse était le bien suprême, le pire des insensés était celui qui, connaissant la vérité, ne la mettait pas en pratique. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite? Le mot pour expérimenter n'apparaît qu'ici, dans le Nouveau Testament. Il évoque l'idée d'une connaissance spécialisée dans un domaine particulier. Qu'il en donne la preuve est un impératif, ce qui est bien rendu en français. Tout comme la foi, si la sagesse et l'expérience ne se voient pas dans des actes pieux, elles sont sans valeur. Ce n'est pas tout, car ces bonnes œuvres doivent être empreintes de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse, précise Jacques. Ceux qui se croient sages sans l'être sont généralement imbus d'eux-mêmes et arrogants. Mais celui qui est réellement sage, selon Dieu, sera humble et affable, ce qui ne veut pas dire faible, mais il disposera d'une puissance maîtrisée. Un cheval dompté, utile à son maître, lui est forcément soumis. Il est écrit que Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Or, et comme chacun sait, Moïse était très loin d'être efféminé ou de se comporter comme un paillasson. Provoqué, il réagissait vite, mais en se contrôlant parfaitement, du moins dans la plupart des cas. Une fois, il s'est emporté et Dieu l'a sévèrement puni puisqu'il n'a pas été autorisé à pénétrer en terre promise. L'humilité, la tempérance, la douceur doivent caractériser tout enfant de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit de lui-même qu'il était doux et humble de cœur et il l'a prouvé. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, l'apôtre Pierre écrit de lui « Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. » Je continue le texte. « Mais si votre cœur est plein d'amères jalousies, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait nuire à la vérité. » Verset 14. Les motivations de l'homme viennent toujours de son cœur. Dans le livre des Proverbes, le sage écrit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Si votre cœur est plein d'amères jalousies, le mot pour amère jalousie signifie pointu, affilé, épineux, piquant ou jaillissant. Jacques l'a déjà utilisé quand il a dit « Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source ? » Ici, il s'agit d'une métaphore qui décrit un arriviste aux ailes mordants qui, ne faisant aucun cas des autres, est prêt à les écraser. Le nom traduit par « esprit querelleur » signifie « rivalité factieuse » et le verbe ayant la même racine voulait dire « fabriquer de la laine, la filer et confectionner un vêtement ». C'est-à-dire travailler pour son propre gain, pour l'avancement de sa petite personne. On affublait de ce mot ceux qui, par ambition personnelle, avaient soif de pouvoir et cherchaient à occuper une position élevée. Cette élévation de soi est donc aux antipodes du comportement du vrai croyant qui est appelé à être humble, désintéressé, généreux et aimable. Si votre cœur est plein d'amère jalousie, dit Jacques, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce mot avait au premier siècle une connotation positive. C'est ce qu'on attendait d'un général ou d'un athlète vainqueur ou encore d'un homme qui réussissait en affaires. Par contre, celui qui se vante d'être plein d'amère jalousie ou de posséder un esprit querelleur est un imposteur. Sa conduite est indigne d'un croyant et sa vie un mensonge qui contredit sa confession de foi. Je continue le texte. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Verset 15. Celui qui est jaloux et querelleur est corrompu en lui-même. Il est animé par l'esprit de ce monde dont le prince est Satan. C'est lui qui bat la mesure et mène le bal. Jacques présente ici les trois caractéristiques fondamentales de la sagesse qui ne vient pas de Dieu. Elle est de ce monde, elle est issue de l'homme charnel livré à lui-même et elle est démoniaque. Cette sagesse est de ce monde dans le sens qu'elle se limite au présent, à l'ici et maintenant. Elle est confinée au bocal espace-temps constitué par l'univers. Deuxièmement, cette sagesse est issue de l'homme charnel qui, dit l'apôtre Paul, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre. Cette sagesse se limite à ce que l'homme peut accomplir par ses propres moyens. Elle est motivée par des intérêts personnels et par l'élévation de soi. Moi d'abord, ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Troisièmement, cette sagesse est diabolique parce qu'elle tire sa raison d'être de Satan, le tentateur et le prince de ce monde. Dans le jardin d'Éden, le diable a berné nos premiers parents en leur disant « Vous ne mourrez pas !» Seulement Dieu sait que le jour où vous en mangerez du fruit défendu, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Cet amalgame de mensonges et de demi-vérités a convaincu Ève puis Adam, qui ont alors transgressé l'ordre divin en mangeant ce fruit défendu. Le châtiment a suivi et ce monde, avec tout ce qu'il contient, a été maudit. Aujourd'hui, Satan continue son rôle destructeur. Vous pouvez être assuré qu'il ne se présente jamais avec une longue queue et des cornes. Au contraire, il se déguise en ange de lumière et en promoteur de la justice. Puis il convainc les hommes qu'il faut mettre la parole de Dieu en doute et accepter la sienne. Et il réussit plutôt bien. Pour les sages selon ce monde, ce qui inclut les philosophes et les scientifiques, les textes sacrés ne sont qu'un vieux livre poussiéreux, de vieilles reliques d'une ère pré-scientifique révolue où l'homme avait recours à la superstition pour expliquer ce qu'il ne comprenait pas. Mais la sagesse des hommes ne vaut pas un clou. L'apôtre Paul écrit « Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé? Où est-il le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? » Le roi Salomon, qui, comme je l'ai dit, avait reçu de Dieu le discernement, a utilisé ce don pour sonder la sagesse humaine. Il s'est livré à toutes sortes de plaisirs et de divertissements, à la joie et au vin, à des extravagances sans fin comme les 1000 femmes qui étaient à son service. Il a entassé des richesses, accumulé les connaissances, entrepris des plantations, d'immenses constructions et agrandi son empire. Finalement, il a découvert que la sagesse humaine était vaine et futile car elle conduisait à la frustration et à l'absurdité. Il écrit « Voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai acquis beaucoup de sagesse et de connaissances. Je me suis en effet appliqué à connaître la sagesse, ainsi que ce qui est fou et ce qui est stupide, et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent, car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Je continue le texte. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habitent le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Verset 16. Le mot pour désordre veut dire instable, confus, tumultueux, inconstant et anarchique. Jacques a déjà utilisé ce terme deux fois. Il a dit qu'un homme qui doute est inconstant dans toutes ses entreprises et que la langue est un mal anarchique qu'on ne peut réprimer. Le mot pour indigne veut dire mauvais dans le sens de vain et futile, c'est-à-dire qui n'a aucun intérêt et n'en aura jamais. Ce mot est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament pour établir un contraste avec ce qui est bien, bon ou utile. L'apôtre Paul écrit que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Je continue le texte. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure, de plus elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Verset 17. La sagesse qui vient d'en haut est bien entendu celle de Dieu qu'il accorde à ceux qui placent leur confiance en son Fils Jésus-Christ. Les caractéristiques de cette sagesse, selon Dieu, sont très proches de celles de l'amour ou du fruit de l'esprit. En fait, dans cette lettre, l'esprit et la sagesse qui vient d'en haut sont pratiquement synonymes. Dans l'Ancien Testament, Job a demandé « Mais quant à la sagesse, où peut-on la trouver? Où donc l'intelligence a-t-elle sa demeure ?» Et plus loin, il répond lui-même à sa question et dit « Révérez le Seigneur, voilà la vraie sagesse. Se détourner du mal, voilà l'intelligence. » Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé, c'est-à-dire sage, qui a bâti sa maison sur le roc. » Et l'apôtre Paul écrit qu'en Jésus-Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure, dit Jacques, pure au sens moral et spirituel. Quelqu'un de sage, selon Dieu, reconnaît en toute sincérité son état de pécheur. Sous le régime du Nouveau Testament, aucun rite ne peut rendre pur ou sage. David a prié Dieu disant « Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. » Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Ne regarde plus mes fautes, tous mes torts efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ensuite, cette sagesse est pacifique, ce qui correspond à la septième béatitude de Jésus qui est « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Troisièmement, la sagesse est modérée, c'est-à-dire équitable et juste. Quatrièmement, elle est conciliante, c'est-à-dire humble, soumise et fidèle. Elle est également pleine de bonté, ce qui correspond à la cinquième béatitude qui est « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». L'homme miséricordieux pardonne quand on l'offense et vient en aide à ceux qui sont dans le besoin. Sixièmement, le sage produit beaucoup de bons fruits parce qu'il a faim et soif de la justice, ce qui correspond à la quatrième béatitude. Ensuite, le sage est sans parti pris, c'est-à-dire exempt de duplicité. Le mot ainsi traduit ne se trouve qu'ici dans le Nouveau Testament. Il signifie littéralement « non séparé, non divisé ». Il s'agit de quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui ne change pas d'avis en cours de route. Il est conséquent et impartial dans ses convictions et actions. Finalement, le sage est exempt d'hypocrisie. C'est le péché que Jésus a le plus condamné. Je finis le chapitre 3. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Verset 18. Cette semence, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Jacques établit ici une relation directe entre d'une part la sagesse selon Dieu et d'autre part la paix et la justice. La sagesse d'un homme se manifeste par une vie juste, désintéressée et pacifique. Et un jour, au début du millénium, la terre entière ne sera peuplée que par des gens sages. Dans une vision prophétique, le psalmiste voit que l'amour et la vérité vont se rencontrer et la justice et la paix se donneront l'accolade. Pour atteindre la maturité spirituelle, devenir juste et manifester la sainteté pratique, le croyant doit acquérir la sagesse qui vient d'en haut. Dans le livre des Proverbes, on lit l'exhortation suivante. « Voici le début de la sagesse. Acquiers la sagesse. Procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Acquiers la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. » Le sage sait maîtriser sa langue parce qu'il contrôle ses pensées, parce qu'il est pur, parce qu'en toute humilité, il a reconnu ses péchés devant Dieu.